Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Pour ce deuxième bloc de sujets graves, mais néanmoins très, très importants, parce qu'on le vit tous. On vit tous un jour un deuil. On vit tous la mort un jour ou l'autre. Mais on est tous affectés un jour ou l'autre par le deuil. C'est bon de savoir que dans des moments difficiles comme ça, il y a des gens expérimentés qui savent de quoi ils parlent, qui sont là pour nous accompagner. C'est le cas de Lumivie, qui offre un accompagnement et un soutien pour les personnes endeuillées. Et nous avons en studio avec nous la directrice générale, Hélène Nadeau. Bonjour, Hélène.
Bonjour, Chantal.
C'est un sujet sur lequel, des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu maladroit, hein? Ne serait-ce que dans les funérailles, les gens savent pas toujours quoi dire aux personnes, même quelle posture prendre. Est-ce que je fais un air de pitié? Est-ce que, tu sais, même aux funérailles, est-ce que j'ose évoquer des bons souvenirs? On ne sait pas toujours qu'est-ce que la personne attend de nous.
Je pense que le terme maladresse, c'est le bon terme.
Ouais.
De manière générale, les gens sont pleins de bonne volonté,
oui.
Mais on nous dit souvent, je sais pas quoi dire.
Ouais, c'est ça.
Moi, je suis rendue à dire aux gens, si vous ne savez pas quoi
dire,
vous êtes mieux de rien dire plutôt que de dire une maladresse. Mais vous pouvez acheter une palette de chocolat, donner une petite tape sur l'épaule et simplement dire, je suis là.
Ouais, ouais, c'est beau, un regard.
Exactement, ouais. Exactement.
Mais on dit souvent dans le doute, on s'abstient.
Mais on ne s'abstient pas de manifester qu'on se sent concerné.
Ah oui.
On ne s'abstient pas de manifester qu'on le sait que cette personne-là, elle vit une situation de vulnérabilité. On fait un geste de bienveillance. Tout le monde, on trouve ça drôle, la palette de chocolat. C'est pas grave ce que c'est. L'idée, c'est de faire un geste vers la personne qui est souffrante.
Oui. Et là, bon, on le sait, au moment des funérailles, il y a une espèce de... Il y a beaucoup d'énergie qui entoure tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup d'actions. Les processus après un décès sont complexes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On est dans un tourbillon qui, des fois, peut-être on n'a pas nécessairement le temps de vivre nos émotions. Mais ensuite, j'imagine, quand là, on retourne à la maison une fois que tout ça est fini, est-ce que c'est là que le deuil commence?
La première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de règles sur le deuil. On a chacun d'entre nous notre manière de le vivre.
Oui.
C'est vrai que dans un premier temps, souvent, on va avoir tendance à résister. Hein? On n'a pas envie de se plonger dans cette peine-là, dans cette souffrance-là. Alors, on va s'agiter, on va faire plein de choses. Inévitablement, il y a un moment où ça nous rattrape. Et je ne veux pas être sarcastique, mais il faut que ça nous rattrape.
Ouais.
Il faut qu'à un moment donné...
On n'y échappe pas.
Il faut qu'on la regarde, cette peine-là. Souvent, au moment du décès, rapidement après, on est bien entouré. La famille est là, les proches sont là, les amis sont là. Mais plus le temps passe, plus notre réseau retourne à sa vie.
Ouais.
Mais nous, on reste là avec notre peine. On reste là avec notre souffrance. Et il y a même des gens qui se font dire, parle-moi-en plus, là. Reviens-en, ça fait 6 mois.
Hey, facile à recevoir, ça.
Non, c'est pas facile à recevoir. C'est une manière de dire à quelqu'un, t'es pas supposé avoir de la peine.
Tu devrais en être revenu.
Exactement. C'est pas vrai. Il y a pas de calendrier sur un deuil. Il y a tellement de facteurs qui jouent sur la manière dont on va le vivre. Ce qu'on a besoin, c'est que quelqu'un nous dise, ben oui, t'as de la peine. Être validé dans ce qu'on vit.
Ouais.
Avoir le droit d'être dans notre peine, dans notre tristesse, et même de se répéter, si on a besoin de se répéter. Mais ça, dans la société dans laquelle on est, c'est pas nécessairement des choses qu'on fait facilement.
On est dans la performance, les choses devraient aller vite. Puis là, on parle d'un deuil issu d'un décès, mais ça peut être le deuil d'une perte d'emploi, le deuil d'une étape de la vie, le deuil d'une personne parce qu'il y a eu une rupture. Moi, je sais que j'ai exactement fait ça à mon divorce. J'ai passé un 6 mois à... je me suis acheté une maison que j'ai rénovée de fond en comble.
Et voilà.
Et j'ai vécu mon deuil chez Reno, Rona, à peu près tout ça. Et je me rappelle que c'est au moment où la maison s'est vidée, que tous les ouvriers de la construction sont partis 6 mois plus tard, que là, je me suis mise à pleurer. J'avais créé une temporisation, mais inévitablement, la peine est revenue.
Et nous, on appelait ça une résistance au deuil.
Mm.
Que ça soit par l'action, par le déni, peu importe la manière, il faut pas penser que c'est pas correct. On a besoin de cette forme de résistance-là. Ça veut simplement dire qu'on a besoin de temps pour encaisser ce qui nous est arrivé. Alors, c'est pas négatif. On réagit tous comme ça. On cherche tous à se protéger. Mm-hmm. Tout le monde fait ça. Mais à un moment donné, on rencontre la peine.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont tendance à aller plus dans l'action que d'autres, que ça fait plus près de leur personnalité?
Je vous dirais que c'est très variable.
Ouais.
Ça passe de l'hyperactivité à l'isolement, à la malaise physique.
Divan pendant...
Exactement. ça peut être des malaises physiques,
ouais.
Ça peut être des comportements pas nécessairement bons pour la personne. Alors, il y a plein de manières de résister. Mais on arrive tous au même point. Faut le regarder.
Et j'ai comme cru comprendre que parfois, il y a un décès, un second décès qui arrive ou un second deuil qui réveille un vieux deuil qui n'était pas complètement guéri.
Premièrement, je me permettrai de dire que le deuil, c'est un processus naturel.
Mm.
Fait que je ne parlerai pas de guérison dans ce sens-là.
Oui.
Mais je vous dirais...
C'est pas une maladie.
C'est pas une maladie, deuil. C'est parfaitement naturel, sinon on serait pas là aujourd'hui.
Ben non, c'est ça. Personne n'aurait survécu. Il y a pas de vaccin contre le deuil.
Exactement. Mais, depuis le début, je vous dis, il faut aller dans sa peine, il faut la rencontrer. Et si on l'a pas fait dans une situation antérieure, ben oui, ça la réveille. Puis il y a aussi le fait qu'on a vieilli, on a changé, on voit plus les choses de la même manière. Fait que ça peut aussi jeter un éclairage différent sur un deuil précédent. Vous avez ouvert sur quelque chose de très intéressant tout à l'heure, qui est le deuil par perte.
Oui.
Que ça soit un divorce, que ça soit un emploi. Mais pensons à tous les gens qui ont des pertes physiques.
Oui. Oui, puis on a plusieurs émissions sur les différents types d'handicap. Ce sont tous des gens qui viennent à Canalem qui ont traversé ces étapes-là de deuil.
Quelqu'un dans un atelier dernièrement, un homme atteint de la sclérose en plaques, me disait, moi, un deuil, j'en viens à toutes les 2 semaines.
Mm.
Alors, ça aussi...
Parce que ça se dégrade constamment.
Ah, voilà, oui. Alors, c'est pas quelque chose qu'il règle dans ce sens-là. C'est quelque chose avec lequel il vit.
Oui, puis il y a des étapes normales de la vie aussi, des deuils comme le départ des enfants de la maison, la ménopause ou là où on le sait que... Donc, on en vit constamment des deuils. On a tendance à l'associer effectivement à un décès, mais ce sont des deuils constants qu'on fait.
J'ai envie de dire, ça fait partie de la vie.
Oui.
Hein, ce qu'on a aujourd'hui, bien, la vie va changer, puis on va en perdre une partie. C'est inévitable.
Je parlais de ça avec une amie hier, puis je lui disais, j'ai l'impression, j'ai 55 ans, que je dois me préparer à ce que des deuils de personnes que j'aime, il y en ait de plus en plus. Parce que j'ai un grand réseau et là, les parents de mes amis commencent à décéder. Et là, on se dit ensuite, ce sera les miens, ce sera mes propres amis, mes sœurs ou moi avant. Mm-hmm. Et j'essaie de me préparer psychologiquement à ça. Mais plus jeune, on dirait que là, c'est terrible, il est arrivé quelque chose. Mais comment arriver à faire en sorte qu'on se dit, ben c'est dans l'ordre normal de la vie, tout simplement?
Là, on parle de la grande chose qui est l'acceptation.
Vous avez raison.
Accepter que la vie n'est pas toujours comme on voudrait et que la vie nous amène des surprises. Bon, c'est vrai que plus on vieillit, plus on est en contact avec le deuil. C'est indiscutable, c'est la logique de la vie.
Oui.
En même temps, mieux on est équipé pour être en contact avec le deuil. Dernièrement, quelqu'un me demandait, est-ce qu'on apprend à vivre des deuils? Puis, je le dirais d'une manière différente. Moi, je dirais qu'on développe notre confiance de traverser
oui.
le deuil.
Oui.
Et à partir du moment où on a confiance qu'on va y arriver, bien, on y arrive.
Bien, c'est un peu, comme vous le dites, n'importe quel deuil d'une relation. La première peine d'amour, c'est terrible. On ne s'en remettra jamais. Les peines d'amour de nos enfants, c'est... Puis après, on le sait qu'il va
arriver cette
étape-là. Oui, exact.
Exactement.
Et heureusement, il y a des organismes comme l'UMIVIE qui nous aident.
Heureusement.
Oui.
Oui. Moi, je suis... Comment dire ça? Je suis pas gênée de dire que c'est fantastique, ces organismes-là. Mmh. J'ai pas fondé l'UMIVIE. Alors, je rends grâce aux citoyens qui l'ont oui. fondé. Trouver la force de mettre sur pied un organisme qui accompagne des gens vulnérables dans la situation particulière du deuil, c'est offrir à tous les citoyens la possibilité de rebondir.
Mmh. Oui.
Hein, je vous disais, je pense que je vous le disais avant l'entrée en onde, à l'UMIVIE, juste en dessous du deuil, il y a la vie. Mm. Puis notre travail à nous, c'est de faire en sorte que la vie traverse, gagne,
oui.
que la vie reprenne. Et c'est beaucoup dans cette optique-là qu'on accompagne les gens, faire en sorte que, oui, ils ont une nouvelle vie à bâtir.
Oui.
Mais on ne sait pas ce qu'il y a devant. On sait ce qu'on perd,
oui.
évidemment. On ne sait pas ce qu'on gagne. Et tout notre travail, c'est de faire en sorte que les gens cheminent vers ce qu'ils vont gagner, finalement, dans cette situation-là.
Puis parfois, est-ce que ça peut être vraiment des gains ou simplement de l'acceptation, comme vous le dites?
C'est beaucoup d'acceptation. Mm. C'est beaucoup d'acceptation, mais il y a un chemin à faire pour arriver à l'acceptation.
Il faut accepter de le marcher.
Il faut accepter de le marcher, il faut accepter de le regarder. Puis j'irais même un petit peu plus loin. Nous, on va jusqu'au point où on parle de l'héritage.
Ah, dans quel sens?
Bien, de toutes les personnes, quand on parle de deuil de personnes, ou en fait de n'importe quelle mm-hmm. perte, de tout ce qu'on a fait, on récolte quelque chose.
Mm-hmm.
Une habileté, on a eu de l'amour, il nous a appris à faire du ski, peu importe ce que c'est. L'être humain a une petite tendance à focaliser sur les aspects négatifs.
Mm-hmm.
Nous, on travaille beaucoup pour mettre de l'avant, retenez ce qui vous a été apporté par cette relation-là, par cet emploi-là. Et il est là, l'héritage.
Et puis ça, on l'apporte avec nous. On peut le faire vivre dans d'autres contextes. Bien, je remarque, tu sais, l'UMIVIE, d'abord, c'est un beau nom, c'est lumineux. Et justement, on dirait que... Est-ce que c'est le mot, c'est lumière et vie? Est-ce que c'est une contraction de ces deux
oui,
mots-là?
Oui, c'est une ouais, contraction hein? de ces deux mots-là. Et c'est vraiment dans cette optique de... Le deuil fait partie de la vie. Puis au bout du deuil... Bien, il y a la vie encore.
Mm. Hélène, comment concrètement vous aidez les personnes endeuillées?
On a trois manières.
Mm.
Rencontre individuelle avec un intervenant spécialisé dans le deuil. Donc, conversation. Nos intervenants sont des thérapeutes en relation d'aide, des psychoéducateurs ou des travailleurs sociaux qui ont une formation sur le deuil.
Mm-hmm.
Et ce qu'on vise à faire, c'est dans un premier temps, normaliser l'expérience vécue.
Oui.
Moi, je suis toujours surprise du nombre de personnes qui appellent puis qui disent « je pense que je suis pas normale ».
Ah oui, hein?
Ben
pas
oui.
normal de quoi? D'être ben, affecté?
Pas normal parce que j'ai pas d'énergie. Pas normal parce que ça fait 6 mois qu'il est décédé puis je pleure encore. Mes amis me disent que je devrais en revenir. Donc, vous êtes parfaitement normal. Alors, on travaille beaucoup sur cette notion de normaliser.
Mm.
Et on travaille beaucoup sur les émotions. C'est le chemin de l'acceptation. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'identifier ses émotions et de cheminer avec. Et on travaille beaucoup sur l'écoute.
Mm.
Nous, on est là pour écouter les gens. Parce que traverser un deuil, c'est le sortir de soi-même d'une certaine manière. Puis la parole est un outil fantastique pour ça.
Bien là, on va prendre une petite pause de parole pour un petit court instant, Hélène, et on revient après la pause.
Parfait.
Thank you.
De retour en studio pour notre dernier bloc des Héros anonymes. Je suis en compagnie d'Hélène Nadeau, directrice de l'UMIVI. Et je lui disais pendant notre courte pause que je la trouve apaisante et sage. Je ne sais pas si vous partagez mon impression, mais quand j'ai la chance surtout d'avoir nos invités avec nous en studio, il y a quelque chose qui s'installe dans la relation de se voir de yeux à yeux. Et j'ai devant moi une dame qui est apaisante. Alors, si je le ressens comme ça en entrevue, je suis convaincue que les gens qui font appel à l'UMIVI vont ressentir cette paix-là que je ressens en lui parlant. Et on avait commencé avec Hélène à aborder les services de l'UMIVI, donc des rencontres individuelles avec des intervenants. Mais là, je crois aussi qu'on peut avoir des rencontres de groupe.
Oui, c'est ce qu'on appelle les groupes de partage. Mm-hmm. 8 personnes, généralement, 8 endeuillés, ça c'est important de le dire, il y a un intervenant, oui, pour diriger, vont partager leur expérience. Et bien franchement, ce qu'ils ont à partager est plus important que ce que peut dire n'importe quel professionnel.
De se reconnaître ou de...
De se reconnaître, de se donner des manières, de se donner de l'espoir. Ils sont pas tous au même stade, ils réagissent pas tous de la même manière. Mm-hmm. Ils se nourrissent beaucoup les uns les autres et souvent, en toute franchise, deviennent des amis parce qu'ils ont partagé un moment très particulier de leur vie.
Oui. C'est une vulnérabilité et puis un accueil aussi.
Oui. Oui. Oui, parce que tout ça se fait dans le respect, sans jugement, avec beaucoup d'écoute. Et le troisième service qu'on offre, c'est des ateliers. Depuis quelque temps, on donne des ateliers à des groupes, des ateliers sur le deuil. En fait, on a deux objectifs. Premièrement, donner de l'information sur ce que c'est un deuil. Souvent, les gens ne savent pas.
La confusion est entre quoi et quoi?
Ils ne savent pas le nombre d'impacts que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un. On a des réactions physiques, mentales, comportementales.
Je me sens pas normale.
Exactement. On peut même se questionner sur le sens de sa propre vie après ça. Ça peut vraiment être très large. On n'a pas tout en même temps, là, je vous rassure, mais on en a quelques-uns. Puis là, notre autre objectif, c'est aussi de faire comprendre aux gens comment on peut accompagner un proche qui est endeuillé. Comment faire en sorte que notre présence, elle est ressentie comme étant bienveillante, elle est ressentie comme étant soutenante plutôt que maladroite?
Oui. Puis est-ce qu'on pourrait apprendre dans un atelier comme ça comment faire quand on arrive à un état comme proche où on ne se sent plus capable d'entendre comment amener la personne endeuillée à lui dire, tu sais, il existe des ressources, sans que la personne dise ben c'est quoi, tu veux plus m'écouter, c'est pas important pour toi ou je me sens pas importante pour toi?
C'est vrai que c'est pas facile à faire. Mais en toute franchise, on est mieux de le faire que d'être irrité parce que la personne nous répète son histoire. Parce que si elle répète, c'est pas pour rien, c'est qu'elle a besoin de le répéter.
Oui.
Et diriger quelqu'un vers des services, ça se peut qu'elle soit un petit peu irritée, mais ce ne sera pas long qu'elle va comprendre.
Oui, c'est un geste d'amour, d'une
certaine
manière.
C'est exactement ça. Oui. En même temps, on ne peut pas forcer personne. Il faut que la personne veuille, c'est sûr. Mais c'est
très... Vous parliez d'acceptation, hein? Hé, là, là. On pourrait en parler longtemps.
Oui, c'est un gros morceau dans la vie, ça.
Oui.
mais en général, quand les personnes réalisent l'opportunité qu'il leur est donné de parler... Parce que les personnes endeuillées, elles ressentent souvent l'irritation de leurs proches. Elles sont pas fermées là, complètement. Donc, on leur donne une porte de sortie aussi. Fait qu'il y a un aspect très positif à ça.
Tout à l'heure, vous disiez, ça arrive pas tout en même temps, rassurez-vous. Est-ce qu'à ce moment-là, ça peut se prolonger dans le temps? Puis ça m'amène à la question, ça dure combien de temps un deuil normal? Et là, vous voyez mes guillemets, hein,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui, je les vois.
Je pense qu'on peut les entendre.
Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'on est endeuillé pour le restant de nos jours.
Ah oui.
Moi, je suis endeuillée de mon père qui est décédé il y a 10 ans. Mais ce deuil-là ne me fait plus souffrir.
Ah, voilà la nuance, oui.
Toute la nuance est là. Ce qu'on appelle généralement deuil, c'est la période souffrante. La traversée du tunnel, la zone noire, appelons-la comme on voudra. Et il n'y a pas de durée déterminée. Je sais que les gens aimeraient ça qu'on leur dise « ça va être fini dans 3 mois ». Ça ne fonctionne pas comme ça. L'être humain, mais il n'est pas, programmé comme ça. Il y a beaucoup de facteurs autour qui vont avoir un impact. Mm. Je vous donne un exemple rapide. Quand dans un couple, une des deux personnes décède, bien, ça se peut, je vais prendre l'exemple de madame, ça se peut que madame doive vendre la maison, doive changer de quartier, doive apprendre à conduire, a peut-être des problèmes financiers.
Donc, c'est l'adaptation à tous ces autres changements-là.
Tout ça, ça arrive. Elle pleure le décès de son mari, mais elle risque aussi de trouver triste de quitter sa maison, mm-hmm. son réseau social et tout ça.
Fait que c'est d'autres deuils sur l'œil.
C'est exactement ça.
Le deuil principal.
Ce qui fait que, bien, le temps, c'est variable. Si jamais quelqu'un vous dit un deuil, ça prend un an, croyez-le pas. Mm. Un deuil, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Ça dépend des gens, ça dépend des situations.
Puis est-ce que ça a rapport à la relation qu'on avait avec la personne?
Évidemment. Mm. Plus on est proche,
oui.
plus la douleur est forte et plus ça risque d'avoir un impact sur notre vie.
Mm-hmm.
Mon collègue qui est décédé, je l'aimais beaucoup, mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur ma vie personnelle. Mm-hmm. Mon conjoint
oui.
qui est décédé, c'est ma vie personnelle qui est chamboulée. Alors, c'est pas du tout le même deuil.
Donc, j'essaie de faire un peu du pouce sur ce que vous dites. Quand il y a le deuil d'animaux domestiques, il y a souvent des gens qui vont dire, ben voyons, c'est juste un chat, c'est juste un chien. Mais ces animaux-là sont justement dans notre vie quotidienne. À tous les jours, on a des rituels, les nourrir, aller les promener, ils dorment avec nous. Donc, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un grand impact sur notre vie quotidienne.
On a tendance à minimiser le deuil animalier, mais il ne faut pas se tromper. Nos animaux de compagnie, ce sont des compagnons de vie.
Ouais.
Ils sont là tout le temps, comme vous
c'est
le dites.
Ça.
Particulièrement les personnes qui vivent seules.
Ouais.
C'est l'interaction vivante qu'ils ont souvent dans une journée. Ça peut être dévastateur. Et là encore, je parlais de maladresse en début d'entrevue. Bien, ces gens-là, ça se peut qu'ils se fassent dire « c'était juste un chien
ouais. ».
Non, c'était mon compagnon de vie.
Bien, malheureusement, mon fils, son chien a le cancer, puis il va décéder, et ils ont fait un GoFundMe pour financer. Et j'ai entendu tellement de choses de dire, ben voyons, de financer un cancer d'un chien. Puis pour le moment, je disais, en ce moment, il y a besoin de sentir qu'il y a une certaine prise sur la situation, un certain contrôle. Il n'est pas dans l'acceptation, donc d'organiser cette collecte-là, c'est sa manière de composer avec l'acceptation.
Absolument, absolument. Et ça va lui permettre, lorsque le chien décédera, d'avoir la satisfaction d'avoir fait tout ce qu'il
oui.
pouvait.
Oui. C'est un peu pour ça que j'ai contribué, pour qu'il puisse avoir cette satisfaction-là.
Oui. oui. C'est important.
Oui. Et c'est drôle parce qu'on parlait de chats et de chiens. J'avais justement entendu lu une entrevue avec Dominique Michel qui disait que je pense que le décès de son chat, il avait ramené le décès de son père.
Oui, absolument. Ouais. Absolument. C'est fascinant. Tout ça, ça vient de nos émotions. Et nos émotions, on ne les contrôle pas.
Mm.
Mon père adorait les biscuits météo.
Mm.
3 semaines après le décès, je me suis occupée de tout. Donc, je ne me suis pas occupée de mon deuil.
Ouais.
3 semaines après le décès, j'ai fait une crise de larmes incroyable dans une épicerie devant les biscuits
météo.
Le gérant est arrivé, tout le monde est arrivé.
Hmm.
Aujourd'hui, quand je passe devant les biscuits météo, ça revient. Mais je souris.
Hmm. C'est le beau souvenir qui reste.
C'est le beau souvenir qui m'est resté. À quelque part, je me dis, si je n'avais pas fait ma crise de larmes devant les biscuits météo, il me rendrait encore peut-être triste aujourd'hui. Mais j'ai nettoyé d'une certaine manière.
Vous avez pleuré cette chose-là. Bon coup.
Oh oui, oui, tout le monde était inquiet dans le magasin.
Donc, j'entends qu'on est endeuillé, toute la vie et que c'est un cycle. Et quand ça revient, on fait quoi? On pleure ce qu'il y a à pleurer, on vide le canal. Puis...
Des réminiscences, on va en avoir probablement toute notre vie.
Mm.
On l'a aimé, cette personne, cette job, peu importe ce qu'on a perdu. On s'est investi là-dedans. C'est une partie de notre vie.
Oui.
On va en avoir des réminiscences, que ce soit quand une odeur va passer, une chanson à la radio.
Ah oui.
Ça, c'est le classique. Mais la seule solution, c'est d'accepter que oui, on va verser quelques larmes.
Mm.
que c'est pas dramatique. Ça veut pas dire qu'on retourne dans la souffrance.
Mais c'est ça, vous me devancez, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est comme un...
Non, on n'est pas en train de reculer. On est juste en train de continuer à vivre, je dirais, ce qu'on a vécu. Mais c'est tellement normal d'avoir de ces réminiscences-là. On veut pas éliminer de notre vie ce que cette personne, cet événement-là nous a donné. Donc, ça remonte. Et ça demeure triste d'avoir perdu quelqu'un. Mais on continue notre vie.
Est-ce qu'on peut parler du deuil blanc?
Bien sûr, on peut parler du deuil blanc.
D'abord, nous l'expliquer.
Oui. C'est toujours la première question que je pose. Le deuil blanc, c'est le deuil d'une personne qui est physiquement vivante, mentalement absente. Le cas le plus classique, c'est la maladie d'Alzheimer.
Oui.
Votre mère, votre père, peu importe qui est vivant, a gardé la même apparence.
C'est
mais
plus la personne.
Toute la relation qu'il y avait entre vous et lui n'existe plus. Elle ne vous reconnaît plus, les souvenirs sont partis. Tout le mode de communication que vous aviez avec cette personne-là, ça ne fonctionne plus. Dans le fond, vous avez une nouvelle relation à bâtir. Évidemment que ça demeure souffrant. Que ma mère ne me reconnaisse plus, c'est profondément souffrant, mais elle demeure ma mère et, dans la mesure du possible, on fait vivre une nouvelle relation.
Hélène Nadeau, je vous écoute parler, puis je me dis probablement que des organismes comme le vôtre vont être encore plus, en tout cas, essentiel ou de pouvoir avoir plus de moyens pour continuer votre travail parce qu'on s'en va malheureusement statistiquement ou démographiquement vers un plus grand nombre de décès.
Oui, puis on a une... Je vais appeler ça une révolution sociale. Je vais faire comme Alain Gravel dans son balado. On a la révolution sociale de l'aide médicale à mourir. C'est nouveau, faut pas se tromper. Ça fait 10 ans. Que l'être humain peut choisir sa date de fin. C'est, quand on y pense, c'est terrible. Mais les proches, nous, on s'occupe des proches, mais pour les proches, c'est une expérience inédite aussi. Ça bouleverse les valeurs, les croyances. C'est une autre forme de deuil.
Hélène Nadeau, directrice de l'UMIVI, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère, comme je vous dis, que les auditeurs entendent la paix qui vient de vos propos j'espère vraiment qu'ils vont contacter l'UMIVI pour avoir du soutien. Et je remercie notre équipe des Héros Anonymes, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique, Chantal Doré au micro. Et j'ai envie de vous dire, nos autres émission, elle continue à vivre pas seulement dans notre cœur, mais sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Donc, je vous invite à aller écouter d'autres découvertes avec d'autres héros anonymes aussi magiques que Hélène Nadeau. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve bientôt.
Au revoir.
Au revoir.